RCF.
Dans son encyclique Laudato Si, le pape François invite les chrétiens à redécouvrir qu'ils ne sont pas propriétaires de la création, mais qu'ils en sont les gardiens. Il appelle tous les hommes de bonne volonté à respecter le monde créé et à sortir de l'avidité. Ne pas dévorer, garder une juste distance vis-à-vis du monde créé, tendre vers davantage de respect, c'est ce que propose l'Église quand elle met en avant le jeûne, une pratique qui fait partie des piliers du carême. Cette semaine, je vous propose d'en comprendre l'enjeu humain et spirituel en compagnie de Jean-Luc Souffeton, prêtre du diocèse de Saint-Étienne. Jean-Luc Souffeton, bonjour.
Bonjour.
Vous proposez depuis des années maintenant des sessions jeûnes, méditations jeûnes avec des participants de toute la France. Il y a beaucoup de demandes ?
Énormément de demandes. À tel point que j'ai parfois plus de monde sur les listes d'attente que le nombre de personnes que je prends dans chaque session.
Ce sont des chrétiens ?
Alors ce ne sont pas que des chrétiens. Il y a bien sûr des chrétiens, mais il y a aussi des gens qui sont attirés par l'expérience même du jeûne. Et puis des gens qui sont en quête d'une recherche spirituelle, recherche de sens.
Des chercheurs de sens.
Des chercheurs de sens, des chercheurs peut-être de Dieu, des nouveaux chercheurs spirituels. Et qui se disent que dans ce type de session, ils vont peut-être pouvoir trouver un peu de nourriture pour leur chemin.
Mais alors, on vient pour le jeûne ou pour la méditation ?
Ah, ça c'est difficile de savoir. Pour les deux, certainement, peut-être aussi pour le monastère dans lequel ça se fait. Il y a de multiples raisons. Les raisons pour lesquelles les gens s'inscrivent à un jeûne sont multiples. Ça peut aller effectivement du désir de jeûner, mais ce désir de jeûner peut être motivé par une quête spirituelle, mais il peut être motivé par le désir de perdre quelques kilos superflu, et pourquoi pas, si c'est un point de départ qui permet de s'ouvrir autre chose. Mais il peut être motivé parce que c'est le temps du carême. Les motivations sont multiples.
Le jeûne, c'est une pratique ancienne dans l'Église.
Oui. Dans l'Église, mais même en dehors de l'Église, c'est d'abord une pratique médicale, le jeûne. On peut trouver ça dans certains textes anciens où le jeûne, c'est d'abord un moyen de bonne santé.
Chez Hippocrate, par exemple ?
On peut le trouver chez Hippocrate et puis je pense chez d'autres qui l'ont utilisé pour guérir le corps ou pour accompagner la personne en souffrance.
Alors, est-ce que c'est une affaire justement de corps ? Où ça implique aussi la psychologie, la vie intérieure, la vie, ce qu'on appelle la vie spirituelle en christianisme ?
Tout. Parce que c'est une expérience corporelle, mais qui va faire travailler au niveau psychologique et qui va être aussi un bon moyen pour la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas séparation dans le jeûne. Le corps, le psychisme, le spirituel sont liés dans la même expérience. Et la démarche spirituelle va s'appuyer sur une démarche corporelle, bien sûr.
Nous allons parler de la démarche corporelle, mais puisque vous êtes prêtre, vous inscrivez dans une anthropologie judéo-chrétienne,
oui.
L'homme, comment le définit-on finalement ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du cerveau, de la place, de l'intelligence. Quelle est l'anthropologie chrétienne sur laquelle vous fondez, vous, votre démarche ?
Je reviendrai, je dirais, celle qui est dans les textes, c'est corps, âme, mais moi, je m'appuie beaucoup sur une anthropologie ternaire, corps, âme, esprit.
C'est quoi alors, ce corps, âme et esprit ?
Ben c'est ce qui fait la globalité de l'homme, son identité. Bien sûr que je suis un être charnel et je ne peux pas ne pas le voir, ne serait-ce que parce que ce corps, il a besoin d'être alimenté, il a besoin de sommeil, il a besoin de soins. Mais je suis aussi quelqu'un qui est animé par un psychisme et il va y avoir tout le monde de mes émotions, tout le monde de tout ce qui va concerner ma relation à l'autre. Et puis il y a cette dimension qui touche à la question du sens, qui touche à l'accueil de l'esprit, pour me faire un disciple fidèle le plus possible de celui qui m'a appelé, le Christ.
C'est ce qu'on appelle donc la vie spirituelle chrétienne.
Voilà, une vie spirituelle chrétienne, que d'autres ne vont pas appeler vie spirituelle chrétienne, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vie spirituelle. Tout homme a une vie spirituelle, parce que à peu près tous les hommes, me semble-t-il, cherchent à trouver un sens à leur vie, donnent du sens à ce qu'ils font, et en tout cas sont motivés par trouver du sens.
Revenons au corps.
Oui.
Le début, c'est arrêter de manger, c'est ça le début ?
Bien sûr, jeûner, c'est arrêter de manger. C'est ne pas, en tout cas dans le type de session que je propose, c'est ne pas manger d'aliments solides. C'est boire, bien sûr, des tisanes, un peu de jus de fruits, un peu de jus de légumes, mais c'est ne pas manger d'aliments solides pendant un certain nombre de jours, entre 6 et 9 jours suivant les sessions.
C'est difficile, ça ?
Eh bien, non. Honnêtement, je ne crois pas pouvoir... Enfin, je ne peux pas dire que ce soit difficile. Le pratiquant moi-même, je m'aperçois que ce n'est pas si difficile que ça. D'autant plus que ça se passe dans un groupe et qu'on est porté par le groupe. Et puis que généralement, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, quand on jeûne, on n'a pas forcément faim. À condition de se préparer au jeûne et de faire une entrée dans le jeûne qui soit une entrée qui soit correcte. Voilà, qui permet de ne pas être dans un... On n'est pas affamé quand on jeûne.
Mais il n'y a pas un sas délicat, difficile, quand on interrompt justement l'alimentation ?
Il y a un temps de préparation, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut commencer par arrêter un certain nombre de produits, comme la viande, l'alcool, le poisson, enfin, tout ce qui va être d'origine animale, tout ce qui peut un peu exciter le corps. Donc on se prépare, mais derrière la préparation physique, c'est une autre préparation qui est en jeu, c'est la préparation psychologique, parce que le jeûne, ça se passe beaucoup dans la tête aussi. Et beaucoup de gens ont peur.
C'est-à-dire ?
Ben, les gens ont peur, qu'est-ce qui va se passer si je ne mange pas ? Mais en fait, il ne se passe pas grand-chose si je ne mange pas, parce que je suis nourri d'une autre manière. Et c'est peut-être là l'intérêt du lien entre le corps, le psychologique et le spirituel. Jeûner, ça n'est pas ne pas être nourri, c'est être nourri autrement à partir de l'intérieur, à partir de mes réserves qui vont se transformer.
Nous parlons avec vous, Jean-Luc Souffeton, du jeûne. Et vous dites que jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, c'est vivre une expérience intérieure, spirituelle.
Tout à fait.
Quand on jeûne, l'âme a faim, dites-vous.
Oui, c'est ça. Quand le corps jeûne, l'âme a faim. Et alors ça, c'est vraiment une expérience que beaucoup de jeûneurs expriment. En disant, mais au fond, le jeûne, il nous renvoie toujours à cette question, mais qu'est-ce qui me nourrit dans ma vie ? Et il découvre que la véritable nourriture, c'est peut-être pas uniquement et d'abord la baguette du boulanger, mais qu'il y a une autre nourriture qui est beaucoup plus essentielle. Et le fait de jeûner leur fait souvent faire l'expérience qu'il y a tout un tas de choses qui vont les nourrir, que ce soit dans la relation aux autres. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire que les échanges au sein d'un groupe étaient bons comme de la nourriture.
Comme du bon pain.
Comme du bon pain. D'autres vont faire l'expérience que la lecture de l'écriture, ça devient une véritable nourriture pour eux. Sans parler, bien entendu, de l'expérience de l'Eucharistie, où un grand nombre de personnes disent « mais communier au corps du Christ, faire l'expérience de l'Eucharistie quand on jeûne, ça fait vraiment prendre conscience de ce que ça veut dire que de communier au corps du Christ ». Voilà. Donc quand le corps jeûne, l'âme a faim, quelque chose s'ouvre à l'intérieur de l'homme et il se repose la question « mais qu'est-ce qui nourrit ma vie ? Quelle est ma véritable faim ? Quelles sont mes véritables soifs ?» Et très souvent, c'est de faire l'expérience que plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, plus elle a besoin de choses à posséder, plus elle a besoin de consommation. C'est ce que dit l'encyclique Laudato Si au numéro 222. Et l'expérience du jeûne, c'est justement de découvrir qu'il y a des choses qui me rassasient. Et c'est des choses qui ne peuvent pas s'acheter, c'est des choses qui ne peuvent pas être consommées. Ce sont des nourritures essentielles, la relation à l'autre, la relation à Dieu, la relation au sacrement, l'accueil d'une écriture qui devient une parole pour éclairer, pour guider ma vie.
Donc la question du sens de ma vie, de l'existence, elle est comme ensommeillée lorsque nous sommes dans la consommation à outrance et puis elle fleurit lorsque nous rentrons dans un manque.
Oui, dans un manque, certainement aussi dans un peu plus de silence, dans un peu moins de sollicitations extérieures et que du coup je me retrouve confronté un petit peu à moi et à... me poser la question, mais qu'est-ce qui fait sens dans ma vie ? Qu'est-ce qui a du goût ? Qu'est-ce qui a de la saveur ? Et remarquez comment on utilise les mots de l'alimentation. Qu'est-ce qui a du goût ? Qu'est-ce qui a de la saveur ? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu ? Vers quoi j'ai envie d'aller ? Ce sont souvent des questions qui ressortent de manière très très forte pendant les sessions de jeûne.
C'est-à-dire que les personnes se posent la question de l'orientation de leur vie,
oui,
des choix qu'ils ont à faire.
Tout à fait, ou alors retrouvent des choses qu'ils faisaient, qu'ils avaient arrêtées, ou sur lesquelles ils avaient laissé passer un petit peu, voilà, sans trop s'y intéresser, qui tout d'un coup se disent « mais c'est ça l'essentiel de ma vie ».
Jean-Luc Souffeton, dans l'Évangile, il y a un texte phare sur le jeûne. C'est le Christ qui, après son baptême, part dans le désert. Il nous est dit qu'il ne mange pas de nourriture pendant 40 jours et que, à ce moment-là, il va être tenté. Et puis il dira justement, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Tout à fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le seulement. Parce que Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas manger. Pas seulement de pain, mais aussi et surtout de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ben pour moi, c'est vraiment ça l'expérience d'un grand nombre de jeûneurs qui viennent, et pas uniquement d'ailleurs des gens qui sont a priori chrétiens, qui ont une vie d'église, mais combien pendant les sessions de jeûne font l'expérience que la lecture de l'Écriture devient une parole qui les nourrit. Et que effectivement, ce n'est pas seulement de pain qu'ils peuvent vivre, mais d'une autre nourriture, qui est à la fois la relation aux autres, le partage du pain de l'Eucharistie, le partage de la parole.
Série d'entretiens consacrée au jeûne avec vous, Jean-Luc Souffeton. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Saint-Étienne et que vous organisez régulièrement des retraites jeûnes. Nous trouvons toutes les propositions que vous faites sur le site Corps, âme, esprit. Revenons à l'encyclique de François, Laudato Si. Le pape dit que plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consommer. Il dit encore « apprenons à dominer l'agressivité et la voracité ». Alors ça nous amène à parler de la pulsion dévoratrice. Vous évoquiez le corps. Le corps,
bien sûr.
Finalement, c'est aussi de la pulsion.
Bien
d'ailleurs,
sûr.
Une pulsion nécessaire, c'est
bien
ce
sûr,
qui
oui.
nous aide à vivre, à survivre.
Parfait.
La première étape, c'est de reconnaître la voracité.
D'abord, de toute façon, je ne vois pas comment on peut sortir de quelque chose sans commencer par accepter d'y entrer. Donc effectivement, peut-être faut-il d'abord par constater cette voracité, constater ce désir, ce besoin de consommer pour pouvoir prendre des chemins pour s'en libérer un petit peu. Donc première chose, oui, c'est de prendre conscience.
Mais alors comment prendre conscience ? Dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qui fait que je vais réaliser cette voracité ?
Oh ben, il suffit de s'arrêter quelques instants et puis de repérer comme c'est difficile, mettons, de rentrer chez soi et de ne pas vouloir à tout prix tout de suite remplir de tout un tas de choses. Alors remplir en mettant la télé, en écoutant la radio, en multipliant les rencontres, remplir en se surchargeant de travail. Enfin, je dirais qu'il y a une créativité, de la voracité dans nos vies qui est assez extraordinaire. Au fond, il y a quelque chose qui est autour de remplir. Voilà, la voracité, c'est ce qui va me conduire à remplir. Alors, je peux remplir de 50 000 choses, mais l'idée de ne pas remplir et de rester un petit moment comme ça, sans rien faire, sans combler l'espace libre, est souvent une épreuve. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, oui, c'est bien à l'œuvre.
Il y a, entre autres, l'ensemble des technologies qui nous prennent
bien sûr.
Aujourd'hui.
Bien sûr, le nombre de fois où je vais ouvrir ma boîte mail, alors que j'ai peut-être vérifié il n'y a même pas 10 minutes, un quart d'heure ou une heure, si j'ai des mails.
Je crois que pour les jeunes, c'est une trentaine de fois qu'on vérifie aujourd'hui.
Voilà, donc voilà, il y a une sorte de pulsion d'être dans cette appréhension. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé ?
Mais alors, vous situez l'origine de cette peur, où ça exactement ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas en nous la possibilité d'accueillir l'espace vide, le silence ?
Ah ben, il y a justement en nous cette possibilité-là. Peut-être que la société dans laquelle on vit nous l'a fait un petit peu oublier, mais de toute façon, elle est là, elle est présente, elle est latente, elle est prête à s'épanouir et à s'exprimer dès lors que j'en prends les moyens. Et une session de jeûne ou n'importe quelle autre retraite mise sur cette capacité qui habite le cœur de l'homme à pouvoir être un peu en repos, en paix et à l'écoute de ce qui se dit en lui, qui n'est pas pour une fois comblé, masqué par de l'avidité, de la voracité.
Mais la dévoration s'est mise en place par peur de manquer, peur de la mort, peur du vide,
peut-être,
du vertige.
Il peut certainement y avoir toutes ces choses-là, mais en tout cas, comment dire ça ? Justement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du chemin humain que de passer du besoin au désir.
Alors, la différence, c'est quoi ?
Mettons, moi je pense qu'il faut remonter dans l'enfance pour comprendre un certain nombre de choses comme celle-ci. C'est-à-dire que le petit enfant, il est d'abord dans le besoin de sa mère. Et il va falloir du temps pour qu'il apprenne à, un, se différencier d'elle et ne plus à être dans un rapport à elle qui ne soit qu'un rapport de besoin, mais le désir de sa personne, le désir de sa présence. Et quelque chose de ce basculement est sans cesse à rejouer dans nos relations, y compris dans la relation à Dieu, bien sûr. Et dans ce sens-là, moi, je dis que le jeûne, c'est une ascèse du besoin et une éducation du désir, c'est-à-dire un apprentissage de la relation à l'autre, où l'autre n'est pas là d'abord pour répondre à mes besoins, mais où l'autre est accueilli pour lui-même, et pas en fonction uniquement de ce qu'il va me donner ou de ce que je peux attendre de lui.
Oui, vous voulez dire qu'il ne représente pas un objet, du coup.
Voilà, c'est ça. Et ça joue jusque dans la relation à Dieu, parce que je peux être dans une relation à Dieu qui est aussi une forme d'avidité, c'est-à-dire préférer les dons de Dieu à Dieu lui-même.
C'est-à-dire
être intéressé plus par ce que Dieu pourrait me donner et m'apporter que par une relation un peu gratuite avec Dieu et d'être là uniquement pour lui.
Jean-Luc Souffeton, ce qui est caractéristique avec le besoin, c'est qu'il se multiplie. On a toujours besoin d'autre chose parce qu'on croit que ça va nous combler et le manque est toujours là.
Oui.
Alors que le désir, on consent à ne jamais être rempli finalement, que c'est un moteur aussi le désir. Que vivre, c'est désirer et donc
oui,
ne jamais être
sûr.
Complètement comblé.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un moteur. Le désir, c'est ce qui me meut et que je ne peux jamais complètement éteindre. Mais heureusement, parce que c'est ce qui me fait continuer à avancer. Je pense, mettons, à « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ». Il y a quelque chose d'un désir qui va être moteur, qui va me conduire à faire des pas, à faire des choix, à avancer. Et en même temps, je ne suis jamais totalement arrivé.
Que nous dit la Bible sur l'avidité, Jean-Luc Souffeton ? Parce qu'il y a un texte fameux, c'est dans la Genèse,
oui.
Adam et Ève qui mangent le fruit défendu.
Bien sûr, oui, que l'avidité, c'est quelque chose quelque part qui peut nous perdre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Mais dans le texte de la Genèse, ce qui me semble important, c'est comment, au fond, dans ce récit, il y a quelque chose qui est de la mise en place d'une limite. Y compris du côté de Dieu. Le premier qui se limite dans le texte, c'est Dieu. Il arrête le septième jour. C'est-à-dire, il limite sa puissance. À un moment, il dit et il contrôle sa puissance pour laisser la place à ce que les hommes vont pouvoir leur tour faire. Pour moi, l'avidité, c'est à renvoyer avec cette idée de limiter.
Donc, Dieu se limite.
Oui,
et
Dieu se limite.
Il dit aussi aux hommes, vous ne pouvez pas être la totalité.
Non.
Avoir la totalité.
On ne peut pas avoir la totalité et limiter votre puissance, notamment dans le rapport à la création. Le pouvoir créateur de l'homme, il est immense. Sauf que pousser à l'extrême cette puissance de l'homme, toutes ses capacités, peut produire des catastrophes. Ça peut produire des choses extraordinaires, mais ça peut produire aussi des dégradations. Et il y a une manière d'entrer dans le texte de la Genèse en contemplant comment Dieu limite sa puissance et comment c'est une invitation pour l'homme aussi à limiter sa puissance pour ne pas engendrer des choses qui finalement lui nuisent. C'est-à-dire que l'avidité d'en vouloir toujours plus peut détruire ce qui me fait vivre.
Avec le fruit de la Genèse, nous avons la nourriture, mais cette nourriture symbolise beaucoup d'autres choses. On peut parler de la boulimie de savoir, de pouvoir, de relations, de religion.
toute chose avec lesquelles je suis dans une avidité, une insatisfaction permanente où il m'en faut toujours plus. Et justement, un des aspects peut-être que va souligner très fortement l'encyclique, c'est de dire, mais au fond, plus c'est pas bien, moins c'est mieux. Mais moins c'est mieux dans le sens où, parce que je renonce à ces formes d'avidité, je vais peut-être pouvoir me tourner vers l'essentiel, la relation à Dieu, la relation à l'autre, le partage, c'est vraiment ça qui va me faire vivre et c'est vraiment ça qui va me combler.
Nous avons parlé de la première alliance. Alors dans les évangiles, Jésus fait l'éloge du manque avec le jeune homme riche, mais oui, aussi dans les béatitudes.
Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire comme s'il y avait cet appel, c'est parce que j'accepte de manquer de quelque chose de matériel, ou tout au moins que je renonce à combler à partir du matériel, que je vais pouvoir m'ouvrir à ce qui est essentiel. Et je pense que les textes nous renvoient systématiquement à ça. Mais c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui vraiment fait vivre? Qu'est-ce qui vraiment nourrit? Et c'est la relation à l'autre qui nourrit, c'est la relation à Dieu qui nourrit. Le reste, oui, c'est important, ça peut apporter du confort, mais ça ne pourra jamais combler.
Quand on regarde Jésus dans l'Évangile, il nous apprend ça quand on le regarde attentivement dans son parcours humain, cette route du désir, il consent, lui, à manquer?
En tout cas, il n'a pas de pierre où reposer sa tête quand il se présente comme ça. Je dirais que je serais pas parti sur comment est-ce que lui, il consent à manquer, mais en tout cas, il consent à entrer dans une véritable relation.
Le fait même qu'il soit homme
voilà,
signe quand même sa faille, donc il accepte de manquer là.
C'est surtout qu'il n'a pas retint jalousement le rang qu'il légalait à Dieu. Il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, c'est-à-dire il a renoncé à quelque chose pour entrer dans une relation qui soit une relation qui permette à l'homme de grandir. C'est-à-dire, quelque part, il s'est donné.
Oui, mais on retrouve l'idée alors de l'imitation de la puissance de Dieu que vous évoquiez en Genèse, qu'on retrouve là avec le Christ.
Oui.
Il ne fait pas semblant d'être homme.
Non, il ne fait pas semblant.
Et donc, il habite la condition humaine avec les manques, la pulsion, les failles, le désir. Besoin.
Tout à fait. Et je dirais, l'expérience qu'il fait lui aussi, mettons, je pense au texte de la rencontre avec la Samaritaine, où il arrive au bord du puits, ses disciples partagent à manger, il a faim. Et quand les disciples reviennent, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se demandent, mais quelqu'un lui a donné à manger? Et il dit non, mais ce qui est important, c'est que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire qu'il s'est nourri d'autre chose dans cette rencontre-là. Et du coup, il n'est plus dans cette attente de la nourriture matérielle que ses disciples étaient partis chercher.
Jeûner pour se libérer, c'est le thème de nos entretiens. Jean-Luc Souffeton, je rappelle que nous nous appuyons aussi sur l'encyclique du pape François Laudato Si, qui reprend les termes de sobriété heureuse dans son texte, qu'il oppose à la logique d'accumulation. Le pape insiste aussi sur le don. Il dit que tout est don et que nous avons à retrouver le sens de la donation et donc de recevoir.
Bien sûr, oui.
C'est important ça.
Ah, très très important. Moi, il y a un petit quelques lignes de cette encyclique que je trouve très très intéressante, notamment quand le pape fait la distinction entre la création et la nature. Et il dit, mais au fond, la création, c'est signifié beaucoup plus que la nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature, là je le cite, a une valeur et une signification. Alors, lui dit, la nature, d'habitude, ça s'entend comme un système qui s'analyse, qui se comprend, qui se gère. Mais la création, elle peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père. Et à mon avis, c'est là que se joue l'articulation de toute une partie de son encyclique, de dire, mais au fond, parlons de la création, parce que dès qu'on parle de création, on parle d'un don surgi de la main du Père et d'un don qui est un don d'amour. C'est entrer dans l'accueil d'un amour qui nous précède.
Et alors, quel est le lien avec le jeûne, puisque vous, je le rappelle, aidez des hommes, des femmes qui souhaitent rentrer dans une démarche de jeûne durant des retraites?
Eh bien, moi, ce que j'entends, c'est le nombre de fois où les gens s'expriment en disant, mais au fond, le jeûne, me fait entrer dans ce mystère d'un amour qui me précède, me fait entrer dans une démarche de gratitude et de remerciement. Quelqu'un qui dit, au fil des jours, la joie de notre groupe, la joie des sœurs, m'a envahi petit à petit, un matin. Et là, je cite une personne, « Je me suis réveillé en louant Dieu. Je n'avais qu'envie de le remercier pour tout ce qu'il m'avait donné, ma famille, ma vie, et ainsi de suite. » Et pour moi, très souvent, dans le jeûne, je vois des gens qui s'ouvrent aux dons. Ce don concerne aussi bien la création que leur vie, que les personnes qu'ils accueillent comme étant des personnes qui leur sont données. Et ça, ça change tout.
Vous avez parlé de louange.
Oui.
C'est un mot qu'on n'entend pas dans le monde. Ça veut dire quoi, louer Dieu ?
Ah, c'est reconnaître sa grandeur, c'est reconnaître sa beauté, c'est reconnaître son amour donné, c'est reconnaître qu'il est à la source de tout don quelque part. En tout cas, moi, c'est comme ça que je traduirais ce louer. Enfin, louer Dieu pour sa grandeur, disent les psaumes. Louer Dieu pour son amour. Louer Dieu pour sa miséricorde. C'est-à-dire pour l'ensemble des dons. Mais ne vous arrêtez pas aux dons. Louez Dieu. Parce que si je ne m'intéresse qu'aux dons, je peux vite être dans une relation qui est une relation très utilitaire à mon prochain et à Dieu.
Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit aux foules, « Ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout sera donné par surcroît. »
Oui.
Je reviens sur ce texte parce que comment le comprendre ? Il faut bien se relever les manches.
Oui, c'est pas une invitation à la passivité. Le texte qui commence par une interrogation, la vie ne vaut-elle pas plus ? La vie n'est-elle pas plus que ? Et c'est le pas plus que qui m'intéresse. C'est-à-dire, oui, mais bien sûr, toutes ces choses-là, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et bien entendu qu'il faut que vous retroussiez les manches parce qu'il faut quand même gagner votre vie, il faut quand même tenir votre maison propre et il faut quand même faire ce qu'il faut pour ce qui est nécessaire. Mais la vie n'est-elle pas plus que ça ? Le texte, à mon avis, met l'accent sur si vous enfermez dans cette quête-là, dans cette quête de ce qui est matériel et nécessaire et que votre horizon se limite à cette quête-là, mais vous passez à côté de la vie. Mais c'est ce que disent la plupart des gens qui viennent jeûner. Et je pense dans toute session spirituelle, dans toute retraite, on s'appuie sur le fait que le matériel est important, il est nécessaire et il est nécessaire de le procurer à ceux qui ne l'ont pas. Mais la vie ne s'arrête pas là.
Mais en quoi le fait de reconnaître un donateur, ça me libère de la peur de manquer ?
D'abord, ça m'en libère parce que ça me permet d'accueillir des choses que je ne voyais plus. Pour beaucoup de gens, se lever le matin, marcher, être en bonne santé, c'est tellement devenu ordinaire que je peux passer à côté de ça. Mais à partir du moment où je commence à m'arrêter, pour regarder les petites choses de l'ordinaire et découvrir l'extraordinaire qui se cache dans l'ordinaire, je n'ai plus peur de manquer. Le soleil se lève tous les matins. Tous les matins, je me lève, je marche, je peux rencontrer les gens. C'est extraordinaire. Sauf que l'habitude fait que je peux ne plus le voir. Et du coup, ne voyant plus ce qui m'est donné, je me mets à la recherche de ce que je crois qui pourrait me satisfaire. Est-ce qu'on se rend compte, pour tous ceux qui sont dans une santé qui n'est pas trop mauvaise, du don que c'est que la santé ? Du bonheur qu'il y a à pouvoir simplement vivre sa vie ?
Dans son encyclique Laudato Si, François écrit « Quand quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d'usage et d'abus sans scrupule. » Jean-Luc Souffeton, on retrouve dans les mots du pape ce que vous évoquiez
bien
à
sûr,
l'instant.
Notamment la question de l'émerveillement. C'est un mot que j'aime beaucoup, émerveillement, et qui est assez présent d'ailleurs dans l'encyclique. Dans émerveiller, même si ça n'est pas l'étymologie, j'aime beaucoup, parce qu'il y a le mot merveille, Il y a le mot veillé. Être émerveillé, c'est être dans cette attitude du guetteur, du veilleur, qui guette, qui est attentif pour accueillir le merveilleux, pour accueillir le beau, pour accueillir le bon, pour accueillir l'extraordinaire de l'ordinaire. Et c'est vrai que l'encyclique dit, si vous perdez ça, si vous ne savez plus vous arrêter, les objets ne seront que des objets qui ne renvoient à personne, qui n'ont aucun sens et qui ne sont que consommés. Et là, la différence, elle est radicale. Parce que l'émerveillement, c'est entre autres ce qui va me permettre de passer de la consommation à la communion. C'est le regard qui change, qui fait que je vais pouvoir être en communion avec celui qui en a à l'origine. Et ça, pour moi, c'est essentiel.
Vous évoquiez, Jean-Luc Souffeton, le septième jour, Dieu qui limite sa puissance, oui. Qui se repose dans le sabbat chez les Juifs, le dimanche chez les chrétiens. Il y a cette espèce de temps en dehors du temps qui est le temps de la gratuité.
Voilà, c'est ça, le temps de la gratuité.
Il y a un enjeu pour nous à vivre dans la semaine, ça.
Oui.
Le pape en parle dans l'encyclique.
Bien sûr, il en parle dans l'encyclique. C'est vraiment tout le sens du dimanche, de faire de ce jour un jour où je m'arrête. Et je m'arrête, là aussi, c'est une manière de mettre une limite à ma toute puissance. Bien sûr, je pourrais continuer à travailler. Bien sûr, je pourrais continuer à produire. Eh bien non, comme Dieu qui se limite dans sa toute puissance, je me limite dans ma puissance de création, de faire, pour regarder cette œuvre. Et pour, à partir de la contemplation de cette œuvre, me tourner vers celui qui en est le créateur.
Mais dans ce retrait, il y a eu aussi une certaine dépossession. Je ne suis pas le propriétaire.
Voilà, à la fois, je ne suis pas le propriétaire. Et puis, je reconnais que j'ai besoin de tout cela pour vivre, mais je ne peux que l'accueillir parce que ça me vient d'un autre.
François, dans son encyclique, évoque aussi le bénédicité. Alors, c'est une pratique qui se vit encore un
bien
peu
sûr,
dans les communautés religieuses, dans certaines familles.
Tout à fait.
Mais tout le monde devrait retrouver le sens de ce qu'est le repas, de ce qu'est un don, la nourriture, qui la fabrique, ceux qui n'en ont pas.
Oui, moi j'aime beaucoup, c'est un lien pour moi très étroit avec le bénédicité, c'est l'offertoire, l'Eucharistie. Chaque fois que je dis « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. » Et j'aime bien cette articulation dans laquelle je vais bénir Dieu pour quelque chose qu'il me donne. Tu es béni de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, c'est le fruit de la terre, mais c'est aussi le fruit du travail des hommes. C'est-à-dire cette association du travail de Dieu, du travail des hommes, qui est reconnue et qui fait la matière de la bénédiction. Bénir le repas, c'est faire ce lien entre ce que Dieu me donne, la part que j'y prends, et puis ce que ça manifeste de la création.
Mais aussi de ce que je suis engagée après à partager. Parce
bien
que
sûr.
De regarder, plus je regarde que j'ai plein de dons, que je reçois plein de dons, ça m'engage quand même à partager.
Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment une expérience. Je pense à cette personne qui disait dans une session, elle
jeûne,
disait,
oui.
De jeûne, oui. J'ai ressenti cette présence de Dieu et tout cet amour donné. Mais au retour, pendant un temps de repos, j'ai été balayé, bousculé par une émotion profonde. Cet amour blotti au fond de moi, il fallait que je le redonne. Je ne pouvais pas rester douillettement installé à déguster ce bonheur. Et je me dis, le jeûne, il invite vraiment à ce passage. À la fois, j'accueille tout ce qui m'est donné, mais ce n'est pas pour le conserver pour moi. Ce n'est pas pour être douillettement installé à déguster mon petit bonheur personnel. Mais il y a quelque chose qui, du bonheur, m'invite à le redonner. Et ce qui rend heureux, c'est aussi de redonner.
Oui, donc les sessions jeûne, ça n'est pas un exercice de développement personnel pour développer ses capacités plus tard, pour être encore plus performant. Mais c'est vraiment...
Tout dépend ce qu'on met comme...
Parce qu'il y a plein de sessions jeûne. Hein.
Bien sûr, mais tout dépend ce qu'on met comme développement personnel. Pour moi, le développement de la personne, ça a à voir avec cette capacité de tout homme à être dans la réception de ce qui lui est donné et dans la capacité à donner. Et ce qui fait, j'allais dire, le cœur de l'homme, c'est cette capacité à donner. Donc dans ce sens-là, je parle d'un développement personnel, mais tout dépend quelles sont les valeurs, quelles sont les potentialités que l'on veut cultiver. Mais la capacité de développer ce don qui est inscrit en moi et qui, s'il n'est pas vécu, fait que je ne vis pas heureux, bien sûr que le jeûne y conduit.
Jean-Luc Souffeton, nous poursuivons notre dialogue sur le thème du jeûne. Dans son encyclique, le pape François nous invite à vivre une simplification de vie, une sobriété heureuse, nous l'avons déjà dit, pour vivre des relations vraies. Il insiste beaucoup sur la relation à soi-même, aux autres et à Dieu. Quel lien vous faites entre la pratique du jeûne et puis la relation ?
Eh bien, je pense à une personne qui écrivait quelque temps après le jeûne, quelque chose de cet ordre-là. Au fond, elle dit « La vie du groupe, ça a transformé mon comportement dans la société. J'étais renfermée, je suis ouverte. J'étais sauvage, je recherche la compagnie. J'étais silencieuse, j'aime converser. Je baissais la tête, je cherche les regards. » C'est-à-dire que pour cette personne, c'est la rencontre vraie avec des gens qui l'ont accueilli dans ce qui faisait sa vie, qui lui a permis de cheminer et de s'ouvrir. Et très souvent, dans les sessions de jeûne, je constate combien le fait de pouvoir parler de sa vie, de pouvoir partager ses difficultés, de pouvoir exprimer tout ce qui m'habite sans censure, de pouvoir être accueilli, c'est un pouvoir de transformation. Je voudrais faire un petit lien justement avec, j'allais dire, l'opposé que dénonce parfois le pape, et notamment dans l'encyclique Laudato Si, et notamment dans un paragraphe que je trouve beau, c'est au numéro 47, où le pape François dit que les relations avec les autres, les relations réelles avec les autres, elles tendent à être substituées par un type de communication transitant par Internet. Et il dit au fond, qu'est-ce qui se passe ? Dans ces moments-là, eh bien, on peut sélectionner, on peut éliminer des relations relativement facilement selon son libre arbitre. Et du coup, ces moyens-là qui peuvent être géniaux, ils peuvent aussi nous empêcher d'entrer en contact direct avec la détresse, l'inquiétude, la joie de l'autre et avec la complexité de son expérience personnelle. Or, moi, l'expérience des sessions de jeûne que je vis avec les gens, c'est que justement, les gens, ils sont là, ils s'écoutent, ils partagent, et certains disent « c'est comme un grand pansement d'amour sur mes blessures que de pouvoir être avec des hommes, avec des femmes, avec qui la relation, elle est réelle ».
Alors, je pensais à cette personne femme que vous avez citée tout à l'heure qui disait « j'ai relevé la tête ». Et quand vous disiez ça, moi, je pensais à la rame de métro où toutes les têtes, beaucoup de têtes sont baissées. Non seulement baissées, mais avec des écouteurs vissés sur les oreilles. Il y a quand même un phénomène de société là qui nous dépasse totalement.
Oui, une sorte d'enfermement, soit dans ses écouteurs, soit les yeux rivés sur son téléphone, y compris dans le métro ou dans les transports en commun et dans toute situation de la vie.
C'est aussi du remplissage, là.
Alors, c'est du remplissage ou de la fuite, je ne sais pas. Enfin, je n'analyse pas d'une manière plus précise, mais en tout cas, c'est une absence à la présence de l'autre. Ça, c'est clair.
Et alors, on peut jeûner.
Ah ben on peut jeûner de ça, bien sûr. Oui, on peut jeûner de ça. Ça peut faire partie, je dirais, de. Il y a le jeûne, j'allais dire, qui est le jeûne de nourriture, mais il y a aussi toutes ces formes de jeûne où pendant un temps, mettons pendant le carême, je vais jeûner de quelques activités qui sont peut-être pas absolument nécessaires pour avoir un tout petit peu de temps, ne serait-ce que pour aller visiter quelques personnes de la famille. Je vais peut-être pouvoir jeûner d'un certain nombre d'heures passées sur Internet ou sur mon téléphone, mais simplement pour parler avec mon voisin, avec ma voisine. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très concret aussi dans le jeûne, et y compris sur tout ce qui pourrait me couper d'une relation réelle.
Jean-Luc Souffeton, nous parlions de la relation à l'autre, la relation à soi-même aussi, il faut en parler parce que c'est important déjà de commencer avec soi.
Bien sûr, oui. Je dirais que la première chose dans le jeûne, c'est qu'il va falloir commencer par s'écouter. Et le corps va jouer un grand rôle parce que là, pour une fois, il parle un peu plus. Ne serait-ce que parce que dans certains jeûnes et pour certaines personnes, il y a des petites difficultés qui peuvent surgir dans le cadre du jeûne. Du coup, je me retrouve un petit peu mis en arrêt et contraint à m'arrêter pour écouter. Pour moi, cette démarche, elle est essentielle que de s'arrêter pour s'écouter. Et ce n'est pas du nombrilisme, mais c'est simplement une nécessité vitale que de prendre le temps d'accueillir qu'est-ce qui se passe en moi, dans telle situation que je vis, dans tel événement, dans tel choix que j'ai à faire. Pour ne pas foncer, pour ne pas être pris par la vitesse, pour ne pas être pris par l'urgence, commencer par s'arrêter et par écouter. Mais ça renvoie à des textes de l'Évangile. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, et ainsi de suite. Voilà, prendre le temps de s'asseoir, prendre le temps de s'écouter, le temps de se reposer.
Jean-Luc Souffeton, le Christ dit dans l'Évangile que l'on peut tuer avec des mots.
Oui, bien sûr.
C'est la médisance.
Oui.
Peut-être pourrions-nous
bien
aussi
sûr.
Jeûner d'insultes, de pensées mauvaises, de jugements préconçus.
Tout à fait, oui. Je peux jeûner de beaucoup de choses. Je peux jeûner de paroles blessantes, mettons. Que mes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction. Je peux jeûner de critiques et de médisances. Pour être dans la bienveillance, dans la miséricorde qui peuvent habiter mon cœur, qui peuvent habiter mon âme. Je peux jeûner de mécontentement aussi. Que ce soit plutôt la douceur et la patience qui deviennent les compagnons de chaque jour et pas le mécontentement de ne pas avoir tout de suite ce que je veux et ce que j'attends de l'autre. Ou de mécontentement parce que le bouchon me ralentit ou parce que la queue est un peu grande. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps qui est là? Je peux nourrir mon mécontentement ou je peux cultiver aussi la patience. Voilà, on peut jeûner de ressentiment. C'est très facile de laisser habiter en soi et de nourrir en soi le ressentiment à l'égard d'une situation, à l'égard d'une personne. Je peux jeûner de rancune, que le pardon pourrait peut-être commencer à être désiré, au moins le désir de désirer pardonner, si je ne peux pas encore pardonner. Et ainsi de suite, il y a plein de jeûnes qui peuvent accompagner le jeûne de nourriture.
Et qui, justement, font grandir... soigne les relations.
Tout à fait. Moi, je suis très, très surpris de voir, pour beaucoup de jeûneurs qui viennent, comment l'expérience du jeûne les ouvre justement à un désir de relations qui soient des relations réconciliées. Beaucoup de jeûneurs parlent de paix, parlent de réconciliation, parlent de démarches pour panser les plaies de relations qui ont été malmenées, et ainsi de suite. Voilà, il y a quelque chose de très lié au jeûne.
Que nous apprend Jésus-Christ dans l'Évangile à travers son parcours, ses rencontres sur ce qu'on pourrait appeler une bonne reliance, une juste reliance, où je ne dévore pas l'autre, je me laisse toucher,
oui.
Je suis à ma place, je laisse l'autre à sa place.
Oui, que veux-tu ? Que veux-tu ? C'est-à-dire que même face à une détresse, il ne prend pas globalement dans les textes d'Évangile l'initiative, il pose la question « que veux-tu ? » Et la juste relation, c'est celle qui à la fois perçoit le besoin de l'autre, mais en même temps lui laisse la liberté de dire oui, de dire non. Mais je suis là, je m'offre, je ne m'impose pas.
Je ne décide pas à la place de l'autre.
Je ne décide pas à la place de l'autre. Et il y a quelque chose d'une justesse dans la relation.
La Trinité pourrait être une sorte de prototype anti-dévoration, nous montrer ce qu'est une relation justement ajustée.
Oui. Moi j'aime beaucoup... repartir de la Trinité pour comprendre ce qui est l'essentiel pour la vie d'un homme. Au fond, quand je contemple le mystère de la Trinité, il y a trois choses qui me viennent. C'est que d'abord, entre les personnes, il y a de l'amour. Et l'Évangile ne cesse de dire que le Père aime son Fils, que Jésus aime son Père. Mais il y a de la différence. C'est-à-dire que le Père, ça n'est pas le Fils. Le Fils, ça n'est pas le Père. L'Esprit n'est pas le Fils. Et il y a une différence qui est une différence reconnue. Mais surtout, chacune des personnes devient d'autant plus elle-même qu'elle accueille l'autre dans sa différence. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas de père, je ne connais aucun homme qui devient père s'il n'a un fils. C'est parce que quelqu'un a un fils qu'il devient père. Et plus son fils, plus il devient père. Mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue dans toute relation. C'est parce que chacun réalise ce pour quoi il est fait et est accompagné dans cette réalisation de ce pour quoi il est fait que moi-même, je deviens un peu plus ce pour quoi je suis fait. Et c'est une relation qui est une relation chaste. C'est une relation qui ne met pas la main sur l'autre. Mais c'est une relation qui, tout en l'accompagnant dans l'aspect unique de sa vie, me permet à moi de grandir dans l'aspect unique de ma vocation.
Un mot sur François d'Assise, parce que le pape en parle dans son encyclique beaucoup. Fraternité universelle, justement, nous parlons de la relation, alors être lié à soi-même, à Dieu, à tous les autres, mais à l'ensemble de l'univers.
Oui.
C'est fort, c'est très fort.
C'est très très fort, et puis il n'emploie pas cette petite expression-là directement en parlant de Saint François, mais encore qu'il faudra aller le vérifier. Mais au fond, François, il exprime bien les trois mots que le pape ne cesse de répéter tout au long de l'encyclique. Tout est lié. C'est-à-dire que l'amour universel de Saint François, il est universel parce qu'il n'y a aucune des créatures, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient animales ou qu'elles soient végétales, qui est négligée. Pour François, toute créature, tout aspect de la création a sa raison d'exister en elle-même et pas d'abord pour moi et pas d'abord pour être objet de. Chez François, il y a vraiment cet aspect-là. Tout est lié. Et la manière dont je vais me comporter à l'égard des animaux aura des répercussions sur la manière dont je vais être en relation avec les hommes. Et il y a cet aspect-là d'une unité de l'amour qui ne peut pas être morcelé, qui ne peut pas être pour quelques-uns et pas pour tous.
Pour le pape François, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure, une conversion qui, dit-il, implique diverses attitudes, dont l'humilité. Jean-Luc Souffeton, nous parlons du jeûne avec vous. Jeûner, c'est vivre l'humilité?
En tout cas, ça renvoie très souvent à sa terre intérieure, le jeûne. Et humilité, humus, il peut y avoir des choses qui résonnent entre les deux mots. Et effectivement, je crois que dans l'expérience du jeûne, beaucoup font l'expérience à la fois de leur grandeur, mais aussi de leur petitesse. C'est-à-dire, il y a une sorte de prise de conscience de la vérité de qui je suis. Avec toutes mes aspirations à suivre le Christ, mettons, pour des chrétiens, et puis en même temps avec, la reconnaissance que... Il y a du chemin à faire.
Oui, parce que c'est une mise à nu, sécession,
oui,
quand même.
C'est une mise à nu. Et de découvrir que dans ma vie, il y a un appel et que j'y tiens, que ça me met vraiment en route et en même temps toutes les résistances qui sont là.
Et alors, c'est là qu'intervient la conversion. Qu'est-ce que vous diriez, vous? C'est quoi la conversion en régime chrétien?
Pour moi, la conversion, ça a à voir avec un amour accueilli.
L'amour est premier.
L'amour est premier. J'aime beaucoup le début de l'évangile de Marc. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la conversion, elle est liée à la foi en une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle, essentiellement? C'est qu'un amour nous précède. C'est-à-dire que pour moi, la conversion, elle est liée à la prise de conscience que cet amour me précède, que cet amour m'appelle, que cet amour me fait vivre. Et la conversion, c'est la réponse à cet amour-là. Alors, dit en d'autres mots, le pape François, j'aime bien aussi la manière dont il le dit dans l'encyclique, il dit « besoin d'une conversion écologique qui implique laisser jaillir les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure ».
C'est-à-dire, quand je suis chrétien, ça a des répercussions.
Ça a des répercussions. Et j'aime bien l'expression « laisser jaillir ». C'est saint Paul qui dit « n'éteignez pas l'élan de votre générosité ». C'est-à-dire c'est quelque chose qui est d'abord intérieur, c'est pas d'abord dans ma tête et pas uniquement dans ma tête. C'est-à-dire que ça repose d'abord sur une expérience, et c'est ce que souligne le pape François, laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre. Pour parler de conversion, il faut qu'il y ait eu rencontre, et c'est peut-être ça la première chose. Et en ce sens-là, le jeûne est souvent le lieu de l'expérience d'une rencontre d'un Dieu plus intime à moi que moi-même. Le nombre de témoignages que je pourrais lire, citer ici, de personnes qui disent que pendant le jeûne, ils ont fait l'expérience d'une rencontre avec Dieu et que Dieu, du coup, n'est plus simplement une idée, mais quelqu'un. Mais la conversion, elle ne peut naître que de ça.
Autrement dit, un amour nous précède.
Oui.
Nous rencontrons cet amour. Et c'est une conséquence, les actions vertueuses, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas en premier. C'est parce que nous sommes aimés que nous voulons suivre le Christ, que nous voulons nous réajuster, et là intervient la conversion.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est très intéressant dans le vocabulaire qu'emploient les jeûneurs à propos de ce changement dans leur vie. Ils disent « Je voulais savoir ce que je devais changer dans ma vie, réfléchir et changer les habitudes, aller à l'essentiel, me situer autrement par rapport aux autres, un début de transformation en moi. » Mais derrière tous ces vocabulaires que j'emploie, il y a toujours quelque chose qui précède, c'est « j'ai rencontré quelqu'un ». J'ai rencontré quelqu'un, ça change mon rapport à moi-même, ça change mon rapport à la création, ça change mon rapport aux autres au point que j'ai envie d'autre chose.
Oui, autrement dit, il y a quelque chose de très particulier dans les sessions chrétiennes de jeûne, celles que vous proposez, c'est que jeûner pour jeûner, non, mais jeûner pour rencontrer, se rencontrer, rencontrer les autres et rencontrer
Dieu. Tout à fait. Je dirais qu'à la limite, le jeûne en lui-même, bon, il peut avoir des intérêts, un intérêt qui peut être un intérêt médical, qui peut être un intérêt physiologique et tout, mais je serais assez d'accord avec Saint-Pierre Chrysologue. Je vous cite juste cette petite phrase.
Qui est Saint-Pierre Chrysologue?
Donc c'était l'évêque de Ravenne, docteur de l'Église dans les années 406-450. Donc c'est pas...
Un jeune chrétien.
Voilà, un jeune chrétien. Et... il écrit ceci, « En lui-même, le jeûne n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est le désir de celui qui jeûne. Le jeûne est une charrue merveilleuse pour labourer le champ de la sainteté. » Et je trouve très très juste cette expression-là, c'est-à-dire qu'effectivement, le désir qui me conduit à jeûner ou le désir qui est réveillé dans le jeûne est plus important que le jeûne lui-même. Le jeûne, ça n'est qu'un moyen, c'est la charrue. Une charrue merveilleuse pour labourer le champ de la sainteté, c'est-à-dire ce désir, mu par l'amour accueilli, de suivre Jésus-Christ de plus près.
Jean-Luc Souffeton, le pape, dans son encyclique, emploie le mot sobriété et puis il évoque aussi l'expression simplicité de vie évangélique. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce mot de simplicité de vie qui rejoint peut-être un chemin de conversion ?
Mais simplicité, pour moi, ça renvoie directement à une expression qu'emploie le père Antoine Chevrier, fondateur de l'association des prêtres du Prado, prêtre lyonnais, qui s'est converti la nuit de Noël 1856 et qui est assez connu sur la région de Lyon, en France aussi. Il a une expression moi, qui m'a toujours beaucoup parlé. Il dit « se contenter du nécessaire ». Et j'aime beaucoup cette expression-là parce que d'abord, il y a « contenter ». Ça renvoie à être heureux. Ça renvoie à une sobriété qui est heureuse.
Oui, parce qu'on pourrait l'entendre, se contenter, c'est restrictif.
Non, mais contenter, c'est être content, c'est être heureux. Se contenter du nécessaire. Et cet aspect, au fond, la simplicité, c'est mais de quoi j'ai besoin ? Il ne s'agit pas d'être en dessous de ce dont j'ai besoin. Mettons, pour travailler, j'ai besoin d'outils. Refuser les outils au nom de la simplicité, je ne suis pas sûr que ce soit juste. Par contre, est-ce que j'ai besoin des derniers outils hyper sophistiqués qui viennent de sortir alors que les miens ne sont pas encore usés ? Ça n'est pas sûr. Donc, me contenter du nécessaire, c'est entrer dans un discernement. Et la simplicité, ça demande du discernement. Qu'est-ce qui est juste ? Mais qu'est-ce qui est juste pour moi dans la situation dans laquelle je vis ? Mettons, avoir une voiture ou ne pas avoir de voiture. La question ne se pose pas du tout. De la même manière, si on est célibataire comme moi et qu'on habite en ville, et qu'on est père ou mère de famille, et qu'on habite à la campagne avec 4 enfants ou 5 enfants.
Donc discerner.
Discerner. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Et est-ce que je peux me contenter de ce qui est nécessaire ? Ou si j'ai un peu la folie des grandeurs, et ça n'est pas vraiment nécessaire, mais ça me ferait tellement plaisir.
Mais le chantier est énorme aujourd'hui,
bien sûr, oui.
Tellement nous sommes sollicités, consommateurs potentiels.
Tout à fait, et puis parce que j'allais dire que toute la publicité va dans ce sens-là, puisque même aujourd'hui pour vendre une voiture, on vend le fait qu'elle possède des choses dont on n'a pas besoin.
Un grand merci à vous.
Ben, merci beaucoup.
D'être venu nous parler du jeûne. Pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur les sessions que vous proposez, il suffit d'aller sur le site Coram Esprit.
C-O-R-A-M-E-S-P-R-I-T, en un seul mot.
Ceux qui veulent lire l'encyclique, c'est toujours possible. Ah oui. Elle est en libre accès, Laudato aussi, sur Internet, dans les librairies.
C'est un plaisir de lire cette encyclique.
Un grand merci à Antoine Picot à la technique. Merci.
Merci.